France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques-Yves Cousteau, Le Monde disparu. Épisode 6, filmer les hommes et les animaux. Pour ceux d'entre nous qui avons regardé ces nombreux films à la télévision, le commandant Cousteau se fond dans un univers nostalgique où se mêlent souvenirs d'enfance et de jeunesse, images d'hydravions et de fiers bateaux, sentiments d'aventure et de dépaysement. Le générique de l'Odyssée sous-marine qu'on entend ici et qui emprunte davantage aux séries télévisées américaines des années 70 qu'à l'esthétique de Louis Malle filmant les fonds marins. Maxence Lamoureux, vous êtes réalisateur de films animaliers et aussi sociologue. On vous doit le livre « Les cinéastes animaliers » publié chez L'Harmattan. Quand on regarde de nouveau ce générique, quand on entend de nouveau ce générique de l'Odyssée sous-marine, cette série de documentaires télévisés du commandant Cousteau, finalement on se rend compte qu'il y a très peu d'animaux à l'image. Il y a seulement un requin dans ce générique. Le reste des images, ce sont les hommes de la Calypso au travail dans leurs soucoupes plongeantes et dans leurs hydravions. Est-ce que au fond, on peut considérer que Cousteau faisait réellement du cinéma animalier ou est-ce qu'il faisait, selon vous, du cinéma d'aventure ?
Alors, le cinéma animalier, il a beaucoup de formes différentes. Il y a des réalisateurs qui aiment se mettre en scène, en train d'aller filmer les animaux. Et je pense que c'est un petit peu ça que faisait Cousteau. Et c'est vrai qu'il y a après le grand genre du cinéma animalier qu'on imagine, qui est un petit peu le cinéma animalier classique, où on voit généralement pas une seule trace d'homme. On a l'impression que les animaux vivent presque sur une autre planète. Cousteau, oui, il est plutôt sur le côté aventure humaine, en fait, à la découverte de l'animal. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on filmait les animaux, en fait, à l'origine du cinéma. Et Cousteau est dans cette veine originelle, on va dire, de l'homme qui part explorer un monde inconnu.
Le point de vue de l'homme, est-ce que c'est pas aussi le point de vue masculin ? Parce que ce sont des films où il y a quasiment, ou presque même pas du tout, de femmes à l'image.
C'est pas propre à ces films, hein. La plupart des films à l'époque étaient réalisés par des hommes. Et c'est encore, malheureusement, encore beaucoup le cas. Ça, c'est en train de changer, on peut dire. Mais ceci dit, ça existait déjà, même avant Cousteau. Il y avait un couple. Alors, c'était souvent en couple. Hein, on voit rarement une femme seule partir à l'aventure, filmer les animaux sauvages. Mais il y avait le couple d'Américains, Martin et Osa Johnson, qui, dans les années 20, partaient filmer la savane africaine. Et c'était Osa qui était mise... ils ont fait des films, plus c'était Osa qui était toute seule à l'écran et qui était mise en valeur, parce que c'était, on va dire, l'atout charme du film. Mais voilà, à l'époque, c'était les hommes qui faisaient des films, et donc on a le point de vue masculin, forcément. C'est l'explorateur avant tout.
Mais est-ce que vous pensez que le côté un peu bande de copains, ça rajoutait finalement du plaisir au téléspectateur, alors peut-être plus qu'à la téléspectatrice ?
Sûrement, de toute façon, quand on filme l'aventurier dans son quotidien, et puis l'aventurier qui découvre des animaux, qui découvre des phénomènes naturels, c'est vraiment l'aventurier qui fait le passeur entre le monde qu'il va découvrir et le spectateur, quoi. Le cinéaste et l'équipe du cinéaste se mettent en scène pour ça, c'est pour que le spectateur puisse vivre l'aventure à leur côté.
Et les films de Cousteau, vous diriez qu'ils racontent quoi ?
Alors, il y a une aventure humaine, mais aussi beaucoup une aventure technique et technologique. C'est un des points très importants et très forts de Cousteau. C'est de toujours mettre en avant ses développements techniques, ses capacités à aller dans des endroits où on n'est jamais allé. Enfin, dès l'origine, hein, Cousteau, voilà, il a inventé donc le scaphandre autonome, la possibilité d'aller filmer des choses qu'on n'avait jamais vues encore. Et mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite dans toute l'histoire, non seulement dans l'histoire du cinéma, et encore peut-être un peu plus dans l'histoire du cinéma animalier, c'est montrer qu'on peut aller filmer des choses qu'on n'a encore jamais vues.
Donc le côté exploit qui est très présent chez Cousteau.
Exploit, explorateur, technique, développement technologique, ça fait partie aussi intégrante, au-delà de raconter la vie des animaux et de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, ça fait partie intégrante des récits.
C'est en 1966 que Cousteau glisse du cinéma à la télévision à la faveur d'une rencontre avec l'Américain David Wolper, ancien réalisateur devenu créateur de concepts pour la télévision. Grâce à lui, Cousteau lance l'Odyssée sous-marine avec une première salve de 12 films diffusée par la chaîne ABC. Maxence Lamoureux, est-ce que vous voyez une différence très marquée entre les films de Cousteau pour le cinéma et ceux pour la télévision ?
C'est vrai que on a cette transformation, en tout cas, vers une esthétique qui est plus du spectaculaire, vers quelque chose de vraiment l'aventure, et la découverte. En fait, les Anglo-Saxons faisaient du cinéma animalier, c'est eux qui ont fait du cinéma animalier avant. Avant les Français. Donc le succès de Cousteau au cinéma, qui a été récupéré en fait en quelque sorte par ce monde anglo-saxon, c'était aussi de passer un peu à la moulinette du formatage anglo-saxon, ce que faisait Cousteau. Quoi.
Et donc ces méthodes, cette moulinette dont vous parlez, c'est quoi ? C'est d'instiller davantage de suspense, c'est de prévoir aussi des coupures pub, et donc de faire en sorte qu'avant la coupure pub, il y ait justement du suspense. Comment ça se passe ?
Oui, c'est aussi beaucoup d'écriture avant, en fait, de faire le film. En fait, un film, surtout à l'américaine, on va dire, c'est rentrer dans des cases, avoir une écriture qui est déjà presque faite, des logiques qui vont se répéter de film, en fait, avec voilà une séquence qui va dire, on va dire, voilà une première séquence peut-être un peu suspense, puis ensuite une séquence où on sait qu'on va mettre un peu plus d'animalier, une autre séquence où on va amener un nouvel enjeu, voilà, on va en fait répéter des schémas, on va dire narratifs classiques, on va toujours avoir la même chose qui va se répéter en fait.
22 décembre, nous suivons des troupeaux de baleines grises au cours de leur voyage vers le sud, le long de la côte californienne. Pour les filmer, nos hommes se jettent à l'eau, avec ou sans scaphandre, insoucieux de la taille de ces baleines grises, qui sont les seules à ne pas posséder d'ailerons dorsales.
Cousteau a réalisé un total de 120 films tout au long de sa carrière, dont un grand nombre pour la télévision. Il faut 2 années avant que le premier épisode de l'Odyssée sous-marine ne soit mis à l'antenne, c'était en 1968, ce qui en dit long sur les délais de fabrication de tels documentaires. Mais à partir de cette année-là, les téléspectateurs vont découvrir chaque année les nouvelles aventures de l'équipe Cousteau, et cela jusqu'en 1997. Le commandant a mis en place une énorme machine qu'il n'est pas toujours si facile de faire tourner, d'autant que les océans ont tendance à s'appauvrir. Il parlait de tout cela en 1990 à Stéphane Mallard.
C'est toujours un peu mystérieux la façon dont sont réalisés ces films sous-marins, notamment oui. pour les jeunes. Quelles sont les conditions ?
Mystérieux ?
Mystérieux parce que c'est la qualité, je veux dire pourquoi c'est mystérieux. Parce que la qualité des images est tellement extraordinaire qu'on se demande comment on peut éclairer des fonds sous-marins, avoir cette qualité de cadrage. Comment vous y êtes pris pour repérer les lieux où se trouvaient les animaux sous-marins ? Le temps qu'il vous a fallu pour obtenir ces images ?
C'est pour ça que les films sont chers. C'est parce qu'il faut rester sur le tas pendant très longtemps avec un bateau qui coûte les yeux de la tête chaque jour.
La Calypso.
La Calypso ou un autre. Et quand vous avez un bateau d'une certaine taille, il faut. Nous sommes 28 hommes d'équipage payés convenablement, avec deux équipes de cinéma, une équipe extérieure et une équipe sous-marine. Tout ça, ça coûte très cher et. Nous restons jusqu'à ce que le film soit.
Et ça peut durer des semaines.
Ça peut durer très longtemps. Ouais. Il y a des films. Je me rappelle, il y a un film, on a mis 3 ans pour le faire. Pas toute l'année, mais 3 saisons. Et un autre qui a été fait en 15 jours. Parce qu'on est tombé sur un spectacle tellement merveilleux qu'il n'y avait qu'à appuyer sur la.
Et quand vous cherchez une espèce animale oui. particulière, bon, bien sûr, vous savez à peu près où elle se situe, mais comment vous faites pour les repérer ?
Ça devient de plus en plus difficile, laissez-moi dire ça, parce que les océans deviennent de plus en plus pauvres, dégradés, abîmés, vidés, par une pêche industrielle aveugle. On pourrait faire une pêche industrielle bien meilleure que celle-là, mais le résultat est que aujourd'hui, par exemple, dans les 100 films que j'ai à peu près fait, il y en a une bonne dizaine que je ne pourrais pas refaire, quel que soit le prix. Hein. C'est quand même, ça devient des archives, c'est grave.
Cette faune a disparu.
Ah oui.
Lesquelles, par exemple?
Oh, il y a, par exemple, des sites. Des sites comme, par exemple, tenez, au large de Marseille, c'est pas la peine d'aller bien loin. Hein. Il y avait un endroit qu'on appelait Merou City. Bon, il n'y a plus un poisson. C'est fini.
Maxence Lamoureux, que retenez-vous de cette archive?
C'est peut-être là qu'on le sent presque le plus proche en fait du film animalier, parce qu'on peut toujours se demander c'est des films d'exploration ou plus des films animaliers, mais là qu'on l'entend raconter du coup son expérience, on sent le cinéaste animalier, c'est-à-dire que il a la même problématique, quoi, qu'on filme des poissons, qu'on filme des animaux terrestres. La problématique, c'est d'avoir le comportement ou l'événement naturel, l'espèce qu'on cherche à l'image, et avec toujours la problématique de, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, et donc des fois, il faut y passer beaucoup de temps. Et du temps de professionnels sur le terrain, c'est beaucoup d'argent, et donc des films qui coûtent cher. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il mettait aussi tant en scène les aventuriers et puis l'homme et les hommes et l'équipe de tournage, puisque du coup c'est du temps de film qui coûte un peu moins cher que d'aller chercher des images d'un poisson bien précis à tel endroit. En fait, c'est le genre documentaire qui coûte le plus cher à produire. Mais c'est aussi un des genres qui peut être le plus rentable, puisque c'est un genre qui s'exporte plutôt facilement si on est, on va dire, dans les cases et dans le formatage télévisuel qu'on connaît bien.
Le succès des films de Cousteau, il est immense, puisque certains de ces films ont pu réunir jusqu'à 26 millions de téléspectateurs. À l'époque, c'était quand même un événement, je pense, à un film de Cousteau à chaque fois qu'il sortait.
Oui, il faut aussi se mettre toujours dans la tête que, en fait, l'image de l'animal était encore très 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 rare. Les premières émissions de télévision qui ont montré des animaux, c'est dans les années 50, 60, mais c'est encore très rare. Donc, quand elles arrivent, c'est comme aller explorer un nouveau monde, une nouvelle planète. Et les films de Cousteau sont, comme on le disait tout à l'heure, sont très modernes pour l'époque. Voilà, faut pas oublier que moi j'ai vu des anciennes émissions des années 60 où on montre des images d'oiseaux qui sont commentées en direct sur le plateau par des gens qui sont en plateau, qui sont assis. Voilà, c'est de la proto-télévision presque. Et quand on regarde à côté les épisodes des séries de Cousteau, on a l'impression de voir des films qui ont été faits. Bon, si on passe la qualité technique, ont été faits encore récemment, quoi. En termes de forme, c'est très moderne. Donc, on comprend très vite pourquoi en fait ça a attiré très fortement ces images et ces formats-là.
Est-ce qu'il y a des animaux fétiches pour les cinéastes animaliers, et en particulier pour ceux qui filment sous la mer, puisque c'est notre sujet aujourd'hui?
Dans le cinéma animalier, en fait, comme ce qu'on disait, c'est que faut que ça se vende. Faut que ça se vende parce que ça coûte très cher. Donc, faut pouvoir le revendre pendant longtemps, jusqu'à ce que ça soit rentabilisé. Donc, pour vendre un film, ce qui se vend le mieux, finalement, c'est souvent les grandes dents. les grandes dents et ce qui se rapproche le plus de l'homme, c'est-à-dire les mammifères. Donc, quand on va faire un film marin, ça va être beaucoup plus facile de vendre des films sur des requins, les plus grandes dents de l'océan, et des films sur des dauphins ou sur les phoques, les otaries, voilà.
Parmi les animaux les plus fascinants pour les téléspectateurs, on trouve bien entendu les pieuvres. Nous sommes tombés dans la salle des archives sur cette anecdote de Philippe Diollet, l'un des camarades de Cousteau sur la Calypso, qui parle de ces bêtes ensorcelantes.
Philippe Diollet, vous avez vous-même broché des pieuvres?
Oui, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure que la pieuvre était un animal facétieux. les pieuvres que nous avons connues et avec lesquelles nous avons quasiment lié amitié l'ont prouvé à plusieurs reprises. Il y a eu notamment l'étonnante histoire des pièges tendus par les pieuvres aux archéologues. Ça, il faut évoquer le souvenir de l'époque où la Calypso et Cousteau étaient en train de fouiller une épave antique sur le Grand Congloué. Et à ce moment-là, les pieuvres, qui étaient très nombreuses dans toutes les amphores qui étaient dans ce bateau qui est un bateau grec très ancien, les pieuvres avaient choisi de vivre dans les amphores, car les pieuvres ont besoin de maisons. Elles se cachent le plus qu'elles peuvent. Et une amphore, c'est une maison toute trouvée. Elles étaient donc toutes là-dedans. Et Fernand Benoît, qui a été le grand archéologue qui a présidé à ces fouilles sous-marines, avait pris pour habitude d'essayer d'identifier ces amphores en regardant ce qu'il y avait dedans. Or, un des plus grands amusements des poulpes consistait, en allant d'une amphore à l'autre, à transporter des pièces de monnaie anciennes d'une amphore à l'autre, ce qui faisait que, en haut, le brave Fernand Benoît avait les plus grandes difficultés à identifier les choses.
Maxence Lamoureux, un commentaire sur cette archive de pieuvre.
C'est marrant, c'est un animal qui a toujours beaucoup fasciné aussi. Il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps avec une pieuvre aussi qui a eu beaucoup de succès. Oui, c'est marrant cette archive parce que on sent le côté un peu anthropomorphisation quoi de l'animal, parce qu'en fait on ne sait pas exactement ce que c'est son comportement. Pourquoi est-ce que les pieuvres s'amuseraient à transporter des pièces de monnaie d'une amphore à l'autre? On a l'impression que la pieuvre fait un tour de passe-passe pour l'archéologue. Mais c'est marrant, c'est cette envie toujours de chercher un comportement qu'on pourrait expliquer à un comportement humain, à un animal qui est pourtant très 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 éloigné de notre perception du monde. Et donc je suppose que la pieuvre ne faisait pas ça pour embêter l'archéologue.
Dans la salle des archives, nous avons retrouvé un entretien du commandant avec Marie-Hélène Fraissé au sujet des dauphins.
Il y a un aspect, Jacques-Yves Cousteau, qui me semble particulièrement vous avoir passionné, intrigué, et peut-être ému, c'est la possibilité, même mince, d'une communication avec les animaux de la mer, et je pense en particulier aux dauphins et aux baleines.
Oui. Si vous voulez, il faut bien préciser ce qu'on entend par communication. Si on entend un langage pour communiquer des idées abstraites, alors là, pour le moment, je peux dire que non seulement on en est loin, mais c'est probablement impossible. Mais ce qui est certain, c'est qu'eux ont un langage qui n'est certainement pas structuré comme le nôtre, mais ils peuvent communiquer des impressions, je dirais pas des idées, mais des projets. On fait ça, ou bien on va là, ou bien dispersons-nous, ou bien rassemblons-nous, ou bien attention, il y a un danger. Tout ça, ils peuvent se le communiquer entre eux, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'animaux qui en font autant, même des insectes. Alors, c'est pas un privilège du dauphin. Le dauphin est beaucoup plus intéressant pour nous, parce qu'il a le cerveau le plus développé, à part nous, de toute la création.
Maxence Lamoureux, un commentaire sur cet extrait?
Oui, c'est encore une fois très moderne, j'ai envie de dire, dans sa perception du monde animal. Ça fait pas si longtemps que ça que dans les documentaires, on parle de la communication animale et de les capacités intellectuelles des animaux, et donc c'est encore une fois très moderne sa façon de percevoir le monde.
Ce qui fait que chez Cousteau, comme chez beaucoup de cinéastes animaliers, il y a beaucoup de dauphins, c'est aussi parce qu'ils ont cette mâchoire qui donne l'impression qu'ils sont tout le temps en train de sourire, et ça parle beaucoup aux téléspectateurs et téléspectatrices.
Oui, ça, on revient un petit peu aux questions qu'on se posait tout à l'heure, c'est parmi les animaux en fait
qui sont les plus vendeurs, bankable, on peut dire. C'est des acteurs, en fait, les dauphins, parce qu'ils sont proches de l'homme, parce que ce sont des mammifères, parce qu'ils ont ce faciès, effectivement, sur lequel on peut se projeter assez facilement. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de sourire. Il y a cet aspect communication qui nous rapproche d'eux encore plus. Le fait que ce sont des animaux sociaux, donc ils font société, comme l'homme. Et donc, plus on arrive à trouver de points communs en fait avec nous, plus ça nous fascine, puisqu'on se dit que finalement on n'est peut-être pas si loin que ça des animaux. Et donc voilà, le dauphin c'est sûrement d'ailleurs le mammifère marin qui était plus filmé, et avec les baleines évidemment qui ont un petit peu la même façon de vivre. Enfin, la baleine, le problème c'est que voilà, ils ont pas ce même faciès, on va dire, que le dauphin, parce que pour voir les yeux des baleines, c'est très compliqué. On a du mal à voir un visage dans une baleine, bien souvent. Par contre, le dauphin, c'est un petit peu l'animal emblème de la mer, parce que c'est devenu une sorte d'alter ego de l'homme dans l'océan.
Si les requins ne sont pas forcément les animaux les plus aimés des téléspectateurs, ils n'en sont pas moins fascinants. Aussi, Cousteau a-t-il toujours mis en scène des moments avec des requins, comme dans cette archive de 63, dans l'émission Journal de bord de la Calypso.
Ici la Calypso. À 3h du matin, nous sommes au-dessus du banc arabe et nous venons d'avoir l'incident d'une attaque concertée d'une cinquantaine de requins contre nos quatre plongeurs et la soucoupe plongeante, les quatre plongeurs étant autour d'une cage protectrice anti-requins. On vient de les sortir de l'eau, ils ont eu des émotions fortes, bien qu'ayant pu se défendre très efficacement contre la meute de loups sous-marins, si vous voulez, puisqu'ils agissent un peu comme des loups, assez poltrons quand ils sont isolés et assez audacieux quand ils sont en bande. Alors, on se réunit tous au carré, on débouche une bouteille de cordial et nos camarades nous racontent leurs impressions dans l'eau et avec une vivacité assez extraordinaire.
Vous avez été sage, hein, dans mon petit.
Ah ouais, quand on a vu ça, j'ai
dit... Ah, il était temps.
Oh là là, il était temps, hein.
Il venait fou.
Il était temps.
Que quand on est descendu sur le câble, oui. Déjà, je me retourne, crac, j'en avais un juste derrière le nez.
Les verres commencent à avoir peur, mais pourvu qu'ils remontent, nous allons qu'ils donnent le signal de remonter, là, parce que ça va mal.
Là, on a à la fois les grandes dents sous la mer et les scènes de vie entre matelots. Ben voilà, c'est une recette gagnante pour Jacques-Yves Cousteau.
Bah oui, complètement. Là, pour le coup, on peut pas dire que ça soit moderne. Bon, après, c'est une archive qui date aussi, on est en 1963. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les documentaires sur les requins, avec des plongeurs qui plongent directement sans protection, hein, parce que la plupart des espèces de requins n'ont aucun intérêt pour l'homme. Et donc ne représente absolument aucun danger pour les plongeurs. Donc là, pour le coup, on est sur une archive où on est vraiment dans l'idée qu'on se faisait à l'époque des requins, peut-être même un peu exagérée. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient si peur que ça des requins. Peut-être qu'ils exagéraient un petit peu le danger, la menace que ça représentait. Mais voilà, on est sur une représentation de l'animal dangereux pour l'homme, donc le loup, hein. Clairement la comparaison est faite, qui est complètement exagérée. Alors c'est du spectacle, là on est plus dans le film spectacle, d'exploration spectacle, que dans le film animalier, parce qu'on cherche pas à comprendre l'animal, on l'utilise pour faire du suspense en quelque sorte. Pour le coup, on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus vision de l'époque, quoi.
Dans les jardins de coraux, il y a des buissons d'anémones venimeuses. Elles dévorent les poissons qui se risquent à leur contact empoisonné. Ce sont les orties de la mer. Mais elles ont des protégés qui usent de leur hospitalité au moindre danger. Voyez l'excitation de l'un d'eux, ce petit clown jaune, partagé entre la crainte et la curiosité.
pour moi, il a été un cinéaste animalier dans le sens où il a été dans cette culture de la nouvelle image, l'image inédite et l'image de qualité aussi, avec un travail de son, on n'en a pas parlé, mais du son et de la musique très important. Et pour ça, c'était un grand cinéaste animalier. C'était le dernier épisode de notre série sur les mondes perdus du commandant Cousteau. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire, Lily Corner, Paul Guigues, Arnaud Plançon, Noé Chaban, Sébastien Royer, Antoine Villose.